RMC.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Le Super Football Show.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc, on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Gilbert Bribois.
Ils sont là, Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Jean-Luc Lemoine avec nous ce soir. Ils sont là, Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Jean-Luc Lemoine et Sacha Tavolieri. Mon petit Sacha, ça va ?
Bonsoir, je vois qu'il y a du mouvement, il se passe des choses.
On va parler de la Belgique actuelle dans quelques instants, mon coco. Mais les révélations de William Gallas il y a quelques instants génèrent. C'est affectif.
Déjà, tu vas reprendre ton truc. Tu dis les réactions de William Gallas. Déjà, mais en avant le fait. Grâce à mon avis tranché.
Grâce à
le débat où je suis allé.
Grâce au pouvoir d'investigation. De Jérôme Montaigne.
Où je t'ai quand même annoncé deux, trois trucs que personne savait quand même, tu vois. La réunion censée être entre Nico et Raymond Domenech, le fait pourquoi ils sont pas sortis du bus. William a tout confirmé. Et après, il amène forcément le vécu parce qu'il y était. Savoir là le chauffeur qui était parti du car, donc le car il pouvait pas bouger, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est des bonnes révélations, donc c'est la continuité.
Essaye de rendre hommage un petit peu à Jérôme parce que là
l'ancien sélectionneur travaille pour le média.
C'est bizarre.
C'est bon. Il y a des choses qui sont un peu.
Ouais, c'est bizarre. Il dit bon.
Alors, du coup, beaucoup de réactions au 32-16. Samy est avec nous. Samy, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et Jérôme.
Alors,
salut Jean-Luc.
J'ai eu peur deux secondes.
Oui, Samy, quand t'entends tout ça, là, quelle est ta réaction ?
Ah, bah écoute, j'ai envie de réhabiliter un peu Raymond Domenech.
Hein?
Bon, oui, exactement, au risque de choquer Daniel et Jérôme.
Vas-y, on t'écoute, Samy.
Dépêche-toi parce que t'as 30 secondes, là.
D'accord. Donc, moi, déjà, on parle d'un entraîneur qui est arrivé en finale de la Coupe du Monde. Et quand on dit que c'est.
Samy, t'as pas entendu ce qu'a dit Gallas juste avant?
Oui, mais
on va pas perdre du temps avec ses absurdités,
là. Jérôme Rotten, au PSG, t'étais en autogestion. Tu peux le dire à Daniel que c'est impossible d'être en autogestion. T'es obligé d'avoir un mec qui recadre toute l'équipe.
Mais qu'est-ce que tu racontes, Samy? Attends, Samy, sauf ton respect. On va arrêter deux secondes. Parce que quand t'as un mec qui était sur le terrain, qui te dit quelque chose, on va pas.
Est-ce que Samy
perdre du temps en absurdité, quoi.
Que Samy n'ait pas entendu ce qu'a dit William, peut-être. William a dit, Samy, en 2006, ce sont les joueurs qui vont en finale. On était.
Et on est obligé de croire William Gallas.
Bah, crois personne alors, mec, si tu crois pas un gars qui est dedans. Et Zidane l'a dit, tout le monde l'a dit, c'est bon, arrête un peu.
Voilà. Est-ce que t'as un autre argument pour la réhabilitation de Raymond?
Oui. Quand on dit que Raymond Domenech, c'est à cause de lui tout ce fiasco, et que à côté on dit que c'est à cause de la formation française qui n'a pas su protéger ses joueurs et qui les ont rendus un but d'eux-mêmes et qui ont eu la grosse tête, Raymond Domenech, il s'est retrouvé tout seul face à ces joueurs-là quand ils ont voulu faire grève. Personne n'a défendu Raymond Domenech. Et après Laurent Blanc, quand il est venu à la tête de l'équipe de France, est-ce qu'il a pu faire mieux que Raymond Domenech? Il s'est cassé vite fait parce qu'il a compris que c'était une équipe ingérable. On avait affaire à des cas immatures, c'est exactement le terme.
C'est ce qu'avait dit Roselyne Bachelot à l'époque.
Voilà.
Qui a dit il y a quelques jours, vraisemblablement, que Benzema était un des leaders, or il n'était pas dans la Coupe du Monde. Attends, Samy, il faut que tout le monde puisse avoir la parole. Il y a quand même un truc.
Tu peux pas entendre.
Je comprends pas.
On est dans des trucs un peu plus intéressants. Je vais revenir sur ces machins-là. J'aimerais qu'on avance un peu.
Juste expliquez-moi.
Moi, ce que je veux maintenant, c'est que les mecs.
Mais quel était l'intérêt de. En fait, au final, parce que Raymond. Domenech, là, il imaginait bien qu'en faisant ce que le décrit William Gallas, il se mettait lui aussi, parce que tu peux pas. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, on n'a pas fait de Raymond Domenech l'ange blanc de l'affaire et des joueurs les moutons noirs.
Je pense qu'il a aussi eu sa part.
Il a été
critiqué comme personne.
Ou alors il a perdu les pédales quand il a fait ça.
Franchement, il s'est fait tabasser, déglinguer partout. Il n'a pas retrouvé de travail en tant qu'entraîneur. Enfin, il a été mis plus bas que tout. Donc délirons pas non plus sur le fait qu'on lui a pas imputé un maximum de responsabilité.
Mais c'est pour ça que je pose la question.
Voilà, pourquoi as-tu fait ça? Maintenant, ce que j'attends, et c'est ce que j'ai commencé, et c'est pour ça que je suis très frustré, parce que maintenant, il faut que William, il aille plus loin et que d'autres aillent plus loin. Je dis, ça n'enlève pas certaines responsabilités, sur cette génération qu'on a vue aussi bien en 2010, ensuite en 2012, qu'on continuait pour certains. Alors certains n'étaient pas en 2010, et on déconnait en 2012. Mais en 2010, leur niveau sur le terrain. Alors ok, si l'entraîneur ne sait pas mettre une équipe et tout, mais bon, le niveau global, le fait qu'ils se laissent entraîner dans ce, je sais pas moi, dans cette attitude globale à d'abord ne pas descendre. Après ok, il y a pas le chauffeur, mais à plus s'entraîner. Enfin, tu peux pas exonérer, tu peux pas dire que c'est une bande de gamins. Le maître d'école a déconné. Ça va, ce sont des adultes.
Attends,
ils sont également responsables.
Mais moi, je suis d'accord avec toi.
Ils portent le maillot d'équipe de France. Ils ont une responsabilité.
Tu parles comme quelqu'un en fait qui a jamais vécu dans un groupe, quel qu'il soit, n'importe quel groupe.
Mais si, je le raconte dans un bouquin. C'est la suggestion collective. C'est la psychologie.
Écoute,
ça peut produire, je le sais.
Moi, je te parle du foot, je te parle pas des autres sports parce que c'est mon élément. Une équipe de foot.
William Gallas le dit d'ailleurs, il dit on était plus conscient de rien.
T'as les joueurs, t'as le staff.
Plus les avait tout le monde est ensemble. Un mois,
Ce que je veux dire, une équipe de foot, c'est une. Après, il y en a toujours qui déconnent.
Après, les dissensions à l'intérieur du groupe, elles sont réelles. Il y a même des mecs qui étaient en interne qui les ont raconté les choses.
Mais que il se passe des choses à l'intérieur du groupe, que tout le monde ne s'entende pas parfaitement. Oui, d'accord.
Ça allait un peu au-delà, là.
Ça allait au-delà parce que, encore une fois, t'as le staff. Il y a Romain Nomé qui est pas tout seul, attention. Mais c'est lui le sélectionneur, c'est lui qui est en première ligne. Ce que je veux dire, c'est que quand lui perd les pédales, quand lui accepte, si tu veux, de justifier par le fait que Anelka se fasse virer les mensonges de l'équipe, comment tu veux que les joueurs, le lendemain, quand ils apprennent que Nico, qui était même prêt à s'excuser, comme je t'ai dit, se fait virer, comment les joueurs peuvent regarder droit dans les yeux Raymond Domenech en disant, lui, c'est lui notre chef de bord, c'est lui qui va nous emmener en huitième de finale de la Coupe du Monde, même si c'est mal barré? Mais c'est normal, tu comprends après que sur le terrain, entre le refus de s'entraîner, mais c'est logique, tout à fait logique. Et encore, moi j'aurais été eux, je serais resté. Peut-être que l'erreur qu'ils ont commise, c'est de
sortir de l'hôtel ce jour-là.
Sortir de l'hôtel, signer des autographes, comme l'a dit William.
Alors, juste un truc quand même.
Si en 2006 ils ont pu être en autogestion, si ce genre de choses se sont déjà passées.
Mais tu peux pas avec
les
résultats. Non mais Daniel, attends. Après il y a.
Tu vas pas exonérer les joueurs de toute responsabilité.
Mais là sur ce coup-là, oui.
Hein?
Mais sur ce coup-là, oui.
Mais quel coup?
Mais sur ce qui s'est passé.
Le coup de Naïsna?
Mais ce que je veux dire, c'est que.
Contradiction.
Non, mais je sais, mais.
C'est
peut-être,
hallucinant.
On n'a pas la même vision des choses de ce côté-là. Mais un groupe, il doit, encore plus quand tu, comme William te disait, au bout de 3 semaines, t'es coupé du monde, tu te retrouves.
Donc t'es plus responsable de ton cerveau.
Mais c'est pas que t'es responsable, c'est qu'au bout d'un moment, t'es trahi par le commandant. Mais écoute, t'as envie de lui couper la tête au commandant. Ouais, ils ont coupé la tête à un joueur.
Alors, c'est une sale mentalité. Genre.
J'aimerais que Jean-Luc donne son point de vue.
Ouais, donc en fait,
tu dois mettre la main et dire à Raymond, c'est une sale mentalité.
Ce qui me fait encore plus chier, c'est qu'on les traite de caïds, immatures, et c'est pas. Mais arrêtez vos conneries. Et dire, il y a le commandant ou le sélectionneur qui a fait n'importe quoi.
Et personne ne
le dit. Et il y en a qu'un dans le monde du football qui a fait ça n'importe comment.
J'suis
sinon
désolé.
C'est à la porte direct.
Dans les révoltés du Bounty, le mec qui se barre, il emmène tous les autres et il tient le bateau à flot. Il se casse pas et il coule pas le bateau.
Au final, ils sont morts sur une
île. Quand tu veux être rebelle, tu l'es comme il faut.
Stop.
Tu fais pas le rebelle dans ta chambre d'hôtel.
Tu fais le rebelle et tu coupes la tête du sélectionneur.
Non, c'est une sale mentalité. Tu portes le maillot bleu, tu vas jusqu'au bout.
Jean-Luc. Jean-Luc, nous t'écoutons. Que penses-tu de cette affaire?
Personne n'est d'accord avec toi.
Pourquoi ils se mettent dans cet état-là? Je voudrais juste savoir les deux.
Oh, c'est habituel.
Non, mais je vais pas faire la Suisse entre les deux. Mais je pense que c'est très simpliste de dire que c'est soit la faute de Domenech, soit la faute des joueurs. De toute façon, j'ai l'impression que c'est parti en sucette à un moment. Et moi, j'ai eu l'impression à l'époque d'assister à un suicide collectif. J'ai l'impression que Domenech, il perdait un peu la main sur son groupe. Et que de toute façon.
Mais il l'a jamais eu, hein, je te rassure.
Bah ouais, mais quand c'est sorti dans l'équipe, moi, je trouve ça aberrant qu'on puisse faire un titre comme ça, une accroche, j'imagine qu'ils en ont vendu des caisses et des caisses ce jour-là de cet exemplaire. D'accord, mais là c'était pas dans le bien de l'équipe de France. Et résultat, après,
c'est pas la seule fois où ils ont fait des unes complètement bidons, ils ont raconté des conneries.
Ouais, mais c'est grave. C'est le média référent.
Il y a beaucoup
c'est...
de choses. Bah non,
mais attention. Moi, je veux pas faire mon corporatiste, mais moi, je n'exclus pas que on leur ait dit peut-être quelqu'un de malveillant. Je sais pas qui. Toi, t'es.
Ils se sont fait instrumentaliser.
Et qui se soit fait instrumentaliser, tout simplement. Après, le fait de le mettre à la une ou dans la page 4, ça c'est autre chose.
Mais exactement, ça normalement. C'est un entrefilet. Il y a quand même un choix rédactionnel de se dire, bon ben, allez, sur une rumeur, sur ce qu'on nous a raconté, on va le mettre en gros titre parce qu'on sait que ça va faire vendre. Donc il y a un risque.
Toi, c'est ça qui t'a choqué.
Bah ouais, parce que si tu prends ce risque, si vraiment il l'a dit, déjà de toute façon, c'était choquant quoi qu'il arrive, même si ça a été la vraie phrase, de toute façon mettre ça en une. Mais si en plus ils avaient un doute, c'est carrément irresponsable.
Exactement.
Et ça a tué l'équipe de France, mais tout le monde. Et quand Domenech. On voit Domenech venir lire le communiqué des footballeurs, enfin des joueurs à l'époque. On avait l'impression qu'il allait à l'abattoir, mais qu'en même temps,
je pense qu'il croyait s'en sortir.
Ouais,
en faisant ça, bah, il mettait la faute sur les joueurs.
C'était très s'en sortir. Optimiste.
Or, l'idée que je défendrai toujours, c'est qu'il est grandement responsable, mais que en aucun cas je ne peux exonérer les joueurs d'une responsabilité. Ce sont des adultes, ils doivent savoir ce qu'ils font et encore plus quand ils sont.
Allez,
l'équipe
on
de
va
France.
Conclure avec Serge et ensuite on passera à la Belgique. Serge, bonsoir.
Oui, bonsoir. Salut, bonsoir à tous et surtout bonsoir Jean-Luc. J'ai vu son dernier spectacle et c'était super, j'adore.
Ah merci Serge.
Je l'ai vu aussi, ça c'est top.
Toi, ah, Jérôme, tu m'as vu parce
que... Gilbert
non. Non, non, j'attends que tu m'invites.
Je joue plus.
Oui.
Non, c'est ça. C'était cher.
Oh, non, bah tiens, alors Serge, on t'écoute.
Oui, alors moi j'en ai assez là sur le Domenech bashing parce que on reproche à Domenech d'avoir dit 8 ans après ce qui s'était passé. D'accord. Et pendant 8 ans, les joueurs n'ont rien dit. Et comme
par hasard, je suis pas d'accord avec toi, Serge.
Non, ils ont rien dit.
C'était omerta total.
Écoute, s'il te plaît.
Mais Nico Anelka a dit déjà, je n'ai jamais dit ça. Il avait dit, mais ça, tout le monde l'a oublié. Tu vois, parce que c'était plus facile de lui faire payer à lui, quoi.
Je parle pas d'Anelka. Je parle pas d'Anelka.
Mais c'était bien un joueur, non?
Oui, c'était un joueur. Non, mais d'accord. Ok, non, mais je parle des autres joueurs après. Après l'affaire, après qu'ils soient partis dans l'avion avec le casque de Dark Vador et tout ça. C'est pas ça, le truc. Non, parce que c'est vrai, il est parti avec un truc, c'était hallucinant. Bon, bref. Peu importe. C'est que tous les autres joueurs n'ont rien dit pendant 8 ans. Et parce que Domenech a dit ce qu'il a dit, parce qu'en fait je connais pas exact, enfin j'ai pas.
Oui, tu veux dire il se réveille maintenant parce que Domenech en reparle quoi.
Voilà, mais en fait c'est du ping-pong, c'est-à-dire il a envoyé une balle puis les autres leur envoient.
Eh ben, on espère Serge que d'autres vont se réveiller pour parler parce que ça fait 8 ans qu'on attend qu'ils nous expliquent aussi. Peut-être qu'ils sentent qu'ils ont pas tous le cul propre aussi.
Mais pour prendre la défense des joueurs, mais est-ce qu'à l'époque ils étaient audibles? Est-ce que on les aurait écoutés s'ils avaient dit le contraire?
Non, c'est faux ce que tu dis. C'est faux ce que tu dis. Thierry Henry en rentrant. Est allé chez Sarko et il avait dit bientôt je parlerai. On l'attend toujours, il a jamais parlé.
Bah parce que
donc il s'est caché comme les autres ils se sont cachés. Ils ont jamais voulu parler
avec Sarko. Voilà. Bon. Et Thierry Henry, c'est le mauvais exemple.
Arrête de toujours défendre tes potes.
Tu sais ce qui s'est dit?
C'est pas une question.
Est-ce que tu sais ce qui s'est dit avec
Mais Thierry il a raconté exactement ce qui s'est passé là. Voilà, et que le président a été choqué de trucs et Thierry voulait pas, si tu veux, s'emmerder avec des histoires déjà parce qu'on en a fait un plein, parce que je veux bien le joueur qui aurait parlé. De toute façon, les joueurs, on leur tirait dessus. La preuve, c'est que les joueurs, ils ont été punis. Ils ont été punis derrière. La plupart, ceux qui ont essayé de parler ou prendre des décisions, rappelle-toi, il y a eu 3 mois de suspension, 6 mois pour certains et tout ça. Donc, de toute façon, c'était plus facile à dire, ah bah, les joueurs, les caïds, les ceci,
bon,
les
ceci. Bon, on referme le dossier.
Voilà. Alors, tu n'aurais jamais dû avoir. Là, je te dis que Domenech, maintenant, eh ben, j'espère qu'il passera aux excuses sur les joueurs. Déjà, sur Anelka.
Les joueurs vont s'excuser.
Qu'il arrivera. Que Domenech arrivera à s'excuser
de ce qu'ils ont fait.
De l'image qu'il a donné de Nicolas Anelka.
Allez, stop, la Belgique. Mon petit Sacha.
Non.
Belgique-Égypte, score final, Sacha.
3-0. Et ça faisait 4 ans que l'Égypte n'avait pas pris 3 buts. C'était au Chili d'ailleurs. Donc c'est que bon, je démarre avec une plutôt bonne nouvelle pour la Belgique. Et je pense que on va parler tout doucement d'autre chose. Hein. On va aller vers le match. Il y a eu des choses très intéressantes. Je me suis bien amusé. Je pense que les spectateurs se sont bien amusés aussi. Il y a eu de la vie, il y a eu du mouvement. On a senti de la percussion entre Hazard et Mertens. Vraiment.
C'est quoi la compo alors? Parce qu'on comprenait pas l'autre fois comment ils jouaient derrière les côtés, les machins.
Je te la montre. 3-4-3. Vas-y. Alors, c'était donc un système à 3. Donc 3-4-2-1, pardon.
Vertonghen, Simon, Alderweireld.
Voilà, exactement. Donc c'est-à-dire que comme Compagnie est blessé,
Meunier à droite, Carrasco à gauche.
Voilà, exactement. Et alors le grand retour de Witsel.
Fellaini, De Bruyne, Rax.
En fait, j'ai été souvent assez négatif hein, avec Witsel ici dans l'after.
Bon, tu peux encore.
Mais je peux encore l'être. Mais il y a quelque chose. Il y a un déclic durant ce match que j'ai eu. En fait, je me rends compte que ces joueurs-là, ils ont besoin d'une boussole. Ils ont besoin d'un mec qui leur dit bon les mecs on temporise etc et la personne avec qui ils ont le plus l'habitude justement d'avoir cette boussole c'est Axel Witsel. Donc en vérité c'est vrai qu'il est pas très très efficace au collectif mais les joueurs ils en ont besoin de
ces mecs. Et après Hazard, Mertens et Lukaku le trio d'avant.
Voilà, okay. Exactement. Et alors du coup on a vu des choses très intéressantes durant ce match et on a vu un Michy Batshuayi qui est rentré en deuxième mi-temps qui était vraiment bon. Vraiment, on a senti, il n'avait plus joué depuis sa blessure, hein. Donc sa blessure qui faisait donc grosse blessure à long terme, je pense 4 mois de blessure. Il est revenu 45 minutes. Il fait sur le troisième but un assist absolument exceptionnel où il fait tomber son vis-à-vis, donc son défenseur central. Décisive, hein. Un assist, une passe décisive.
Et la latte, c'est la barre.
Hein. Oh, ça va.
Non, non.
Oh, ça va. Je dois commencer par deux fois.
Non, je dis à Jean-Luc qu'il soit pas surpris, quoi.
Ça va. Et donc, du coup, une superbe action qui a amené à un but de Marouane Fellaini. Pour le reste, je pense que on a un vrai leader en la personne de Kevin De Bruyne. Qui s'est un petit peu enguirlandé avec Thomas Meunier ouais. Lorsque les choses n'allaient pas bien dans le match.
Mais là, je te rejoins parce que moi, j'ai regardé avant de venir, j'ai regardé la première mi-temps.
Il prend du leadership, hein. Il prend du leadership.
De Bruyne, ouais, il a exactement ça. Et c'est vrai que Meunier, 2-3 fois, il est pas sorti au pressing parce que De Bruyne a l'habitude du style Guardiola. C'est un jeu très offensif. À la perte de la balle, il faut être agressif sur le porteur de balle pour le récupérer au plus vite. Il joue à peu près dans le même système, que avec Guardiola, même si Guardiola peut changer aussi. C'est une équipe qui est très offensive. Vraiment très offensive, où comme tu dis, il y a de la complémentarité devant, des complicités entre Mertens, Hazard, De Bruyne, quand ils ont le ballon dans les pieds, Carrasco qui arrive à prendre le couloir gauche, qui est auteur de la passe décisive sur le but d'Hazard.
Exactement. Le 2-0.
Après, le bémol, moi, que je mettrais, et je te laisse finir après, c'est que dès que tu vas avoir une équipe qui a plus de maîtrise technique, là, ils vont être en difficulté parce que Carrasco, le placement, il laisse un petit peu à désirer.
Je pense que c'est plus de l'assurance tactique dans le schéma. Ouais. Quand t'as des par exemple Romelu Lukaku en première mi-temps face au Portugal, il est complètement muselé par José Fonte et Pep. Ouais. Absolument, il ne bouge pas. Mmh. Il ne bouge pas parce qu'il ne sait pas se défaire de son vis-à-vis parce qu'il manque de mobilité, qu'il a des difficultés techniquement et qu'il joue effectivement sur son physique, sur ses ballons en profondeur qui peuvent être très intéressantes. Mmh. Mais dans ce qu'on propose aujourd'hui en Belgique, la solution la plus intéressante, et t'as été joueur, je pense qu'un joueur comme Eden Hazard, il a besoin d'un point de fixation. Et Michy Batshuayi, techniquement, ce qu'il propose, et ce qu'il a proposé là en 45 minutes, alors que, je le rappelle, il revenait d'une longue blessure, mais c'est absolument fabuleux.
Ouais, ouais.
Il a apporté des solutions, de la technique, il ouvre des espaces pour ses coéquipiers. Mmh. Il permet justement à Hazard et Mertens de permuter encore plus. C'est une solution toute trouvée selon moi. Alors effectivement, bon, Roberto Martinez connaît très bien Romelu Lukaku, c'est une évidence. Donc c'est une évidence qu'il va démarrer titulaire à la Coupe du Monde parce qu'il joue. C'est un entraîneur qui a besoin de certitude. C'est quelqu'un d'assez frileux en général. Mais après. Dans ce staff quand même de la Belgique, je pense qu'on est dans l'after, j'ai quand même envie un peu d'en parler. Roberto Martinez, il a été vraiment vraiment mis à feu et à sang, que ce soit par le public, que ce soit par notamment les médias. Et il y a un mec dont j'attendais la réponse. Et toi, tu le connais, c'est Thierry Henry. Mmh. Il a pas parlé, il s'est pas bougé.
Encore.
Non mais Thierry Henry, il a pas parlé. On avait besoin de Thierry Henry, de son discours, de son charisme pour dire à un moment donné, bon les mecs, OK, on n'a pas pris Rajan Engolan, mais je suis à 100% derrière mon coach, je suis sûr qu'on va faire une bonne Coupe du monde et qu'on va aller en avant. Il a pas fait ça. Il a pas fait ça. Pourquoi toi tu le connais? Comment est-ce que tu peux expliquer ça par sa personnalité
en privé?
S'il parle pas à la presse, que déjà je pense que t'as le numéro un. Il veut pas, à mon avis, faire de l'ombre au numéro un. Parce que bah, Thierry Henry, il a quand même, comme tu dis, il a son vécu et tout le monde attend qu'au bout d'un moment il prenne la parole, il dise des trucs pour faire la une des journaux. Peut-être qu'il fait attention à ça avant la compétition. Où je suis persuadé qu'il le fasse parce que j'en ai parlé dernièrement avec lui en Angleterre. C'est vraiment la relation entre le milieu et l'attaque où il parle beaucoup aux joueurs offensifs et souvent ils le disent, hein, que ça soit Kevin De Bruyne, que ça soit Lukaku, que ça soit les autres, Michy ou les attaquants de côté, Eden Hazard. Je pense qu'il leur fait du bien pour les rassurer dans un premier temps, pour trouver cette complicité, parce que c'est ce qui manquait. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs de la Belgique contre le Portugal, par exemple. Tu vois, tu sens qu'il y a des manques, il y a des manques dans la relation devant. Pourtant, ils ont des super joueurs.
On va passer à la suite. Jean-Luc, la Coupe du Monde, t'as prévu un programme particulier?
Non, je vais me gaver comme tout le monde. Je vais regarder tout ce que je peux. Jusqu'à aller
genre Arabie Saoudite, Égypte,
ouais.
Tu regardes.
Ouais, il y a un truc hypnotique. Non, alors mais il y en a certains où je vais faire la sieste, mais non, je vais regarder un maximum.
Non, mais moi, t'as raison. C'est la Coupe du Monde, on regarde tout.
C'est ça. C'est normal.
C'est comme le curling aux Jeux Olympiques. Tu regardes même les matchs qui t'intéressent pas.
Curling. Ouais, le curling quand même, c'est chaud.
Si, c'est beau.
Franchement, je te le laisse.
Vous êtes pas joueur.
Sacha, merci beaucoup.
Un grand plaisir.
Dans quelques instants, on va parler du foot russe. Et bien évidemment, on vous attend au 32-16.
Qu'on fasse l'élection du match le plus nul de la Coupe du Monde quand on regarde. On prend des notes, on fait un classement.
Je pense que le premier va être bien, je pense.
Alors, tu veux que je te dise? Il y a un Arabie Saoudite Uruguay qui peut être pas mal dans les matchs nuls.
Moi, je sais lequel c'est le match en troisième place.
Tu rigoles ou quoi? Russie, Arabie Saoudite,
troisième place. Souvent, ils sont pas mal, hein.
Bon, ces mecs sont cramois.
Si, troisième place. Mais attends,
troisième place, souvent, on a vu des bons matchs, hein.
Ouais, pff, tout le monde s'en fout.
Si, le Pays-Bas Croatie en 98, il est bien. Le Suède-Bulgarie en 94. C'est quoi le dernier? Je me souviens plus.
France-Belgique en 86.
Celui-là, ouais.
Bah, c'était l'Uruguay. En 2010, l'Uruguay en troisième place. Mais après, en 2014.
Non, mais souvent ils sont pas mauvais ces matchs-là.
Tu me rires pour trouver une solution, c'est magique.
Souvent ils sont pas mauvais ceux-là, je suis désolé, t'exagères.
Messieurs, dans quelques instants, le foot russe au programme. Les Russes, a priori, ils seront pas dans le match en troisième place. Hein.
Le Allemagne-Portugal.
Un moyen exploit.
Ouais, non, c'est pas si mal.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show. L'after foot, Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit, on est là, le quiz tout à l'heure, un quiz de haut niveau, je vous préviens, ce soir, ça va être très chaud. Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten est là, Jean-Luc Lemoyne est là.
Les enchères ou pas? On est très fort en bluff avec Jérôme.
Pas d'enchères.
On fait que bluffer.
Attention, Jean-Baptiste Guégan nous rejoint. Pourquoi? Parce qu'il sort un livre avec certains de ses amis spécialistes du football russe, Football Investigation, les dessous du football en Russie. Je vous le montre. L'éditeur s'appelle Édition Bréal. C'est une étude très documentée. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir.
Salut Jean-Baptiste.
J'aime bien la voix. Charmeur.
Bonsoir.
Exactement. Ça démarre bien. Juste, on t'a même pas posé la question de savoir si t'avais des projets, des trucs. Jean-Luc, toi, on te voit à la télé évidemment régulièrement, mais tout à l'heure on avait comment il s'appelait là,
Serge,
qui a vu ton spectacle.
Ouais. Enfin,
je sais pas, il y a un
j'ai
spectacle
fini mon
qui
spectacle
arrive.
En février, j'avais tourné pendant 3 ans et demi, donc je comprends pas que vous soyez pas venu.
C'est un pur scandale.
Et là, je vais commencer à écrire un nouveau. Et puis voilà, toujours en télé.
D'accord.
Toujours te dis, je continue.
Très bien. Et t'écoutes l'after?
Beaucoup.
Excellent.
Beaucoup trop parce que j'écoute plus de chansons. C'est-à-dire que je vous écoute et c'est très très particulier.
Chante. Ça peut lui arriver.
Ça peut. Ouais, la dernière chanson de Jean-Michel Aulas là, c'est.
Non, mais la vraie chanson.
Tu veux pas me chanter un petit truc de temps en temps?
Si, mais je le ferai avec grand plaisir.
Merci.
Je fais très bien Patrick Bruel.
C'est vrai. Je me doutais.
Ah ouais.
Vas-y. Vite.
Non, mais je veux pas là.
Fais-nous Place des Grands Hommes.
Ah, écoute, on devait pas avoir.
Celle-là, ouais.
On devait pas avoir William Gallas, fais-nous Patrick Bruel. La soirée des imprévus.
C'est vrai que William, je le vois pas chanter, par exemple.
Non, mon nom.
Pour toi, il y a une belle voix.
William. Ça l'aura pas fait.
Chanteuse avec la voix cassée, comme ça. Non? Bon, ok, c'est bon. Jean-Baptiste Guégan.
Jean-Baptiste, parlons de Russie, parce que la Coupe du Monde démarre dans une semaine, bien sûr, il faut qu'on en sache plus, parce qu'il y a de nombreuses histoires politico, comment dirais-je, enfin bref, il y a plein d'histoires en Russie. Mais démarrons. Je voulais démarrer par un mot d'histoire, parce que historiquement, le foot en Russie a toujours eu été un instrument politique. Il y a d'ailleurs un documentaire, je crois que c'est sur France 5.
Ah, c'est pas encore vu, ça.
Bah, c'est trop tard.
Pourquoi c'est trop tard?
Bah, parce que là, il est plus sur les plateformes de replay. Je pense que c'est mort.
C'est football et KGB.
Football et KGB, très bien foutu. Il y a une petite, vous en parlez, je crois, un petit peu également
dans sur l'histoire russe.
Dans le bouquin, avec l'histoire évidemment de ces clubs qui appartenaient soit au service secret, à l'armée, au chemin de fer. Enfin bon, on connaît cette histoire-là. Donc de tout temps, le foot a été politique en Russie.
Oui, il y a toujours une dimension politique. D'abord parce que ça rassemble les gens. Hein, on le voit même chez nous. Emmanuel Macron qui vient inciter les Français à gagner. En Russie, c'est encore plus vrai parce qu'on est dans un régime autoritaire. On est dans un régime où finalement la figure du chef est importante. Et donc, si le chef a dit qu'il fallait gagner et montrer le meilleur, justement, il faut aller dans ce sens-là. Et les footballeurs, du coup, se retrouvent à être à la fois, tu parlais du documentaire, exactement dans ce cadre-là. Ils sont à la fois officiers et en même temps footballeurs, et leur carrière est liée à leur performance. Là, pour ce qui est de la Sbornaïa, la sélection
russe... Il y a des mecs qui ont fini au goulag. Hein.
Exactement. Il vaut mieux gagner, oui. Dans ces cas-là, c'est une vraie motivation. Hein.
Non, c'était pas ça qui est arrivé à certains joueurs de Corée du Nord récemment, justement, ou
si Corée du Nord, le truc c'est que effectivement les choses
c'était de la rumeur,
se disaient, mais on savait
c'était
pas.
De la rumeur.
Genre si vous rentrez après, c'est vrai qu'on sait pas ce qui
se passe. Non, mais il y a l'histoire des créateurs
du Nord, c'est Gilbert, c'est territoire à lui ça.
Les deux créateurs du Spartak, c'est raconté dans le doc. Le Spartak était le seul club qui était inféodé à personne, qui n'était pas inféodé à un ministère, à la police.
Le club du peuple. Finalement.
Donc du coup, c'était le club du peuple par définition. Et les deux créateurs du Spartak ont fait du goulag.
Ah ouais.
Et finalement, ils sont ensuite revenus parce que c'était quand même des bons footeux. Donc
c'est les ennemis de Beria, pas de bol.
On les a fait revenir. Ouais, voilà, fallait pas être ennemi de Beria. Lui, il était Dynamo.
Ils avaient qu'à faire une équipe de foot là-bas, puis voilà. Quoi.
Mais ils en ont fait une en plus. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'en sortir un temps. Mais c'est vrai que quand on regarde le foot russe aujourd'hui, on est face à quelque chose d'assez étonnant. Personne n'attend rien de cette sélection russe. Par contre, il faut qu'elle ne se ridiculise pas.
On a eu l'occasion. Mais c'est quoi ne pas se ridiculiser?
Concrètement,
pas
c'est
sortir du premier tour.
Déjà, le match contre l'Arabie Saoudite.
C'est rare pour une équipe qui organise parce que souvent, on a un petit arbitrage domicile.
Voilà, déjà le tirage au sort.
Le tirage au sort est quand même avantageux.
Là, les règles,
ça, c'est toujours été comme
favorable.
Ça. Le pays organisateur a toujours un tirage favorable.
C'est quand même le seul groupe dans lequel tu as une équipe qui est plus faible finalement que la Russie. C'est le cas de l'Arabie Saoudite. Normalement, il devrait en tout cas prétendre, avec un premier match contre le plus faible de toute la Coupe du Monde, être capable de se présenter au deuxième tour. Après, bon, là-dessus, il n'y a pas de miracle. Hein. Ça va être l'Espagne, le Portugal, a priori.
Mais est-ce que c'est peut-être naïf ce que je vais dire, mais est-ce que c'est fait exprès justement que au tirage de sort, ils sont arrangés pour qu'il y ait
c'est avant.
Russie, Arabie Saoudite, justement, pour être sûr qu'ils aient des chances de bien figurer pour le match d'ouverture.
Ah non, c'est le tirage qui fait ça.
Ça, c'est le tirage.
Mais c'est les règles du tirage. C'est-à-dire que c'est pas le tirage en lui-même qui est truqué, c'est les règles avant qui sont orientées, c'est tout.
D'accord. Voilà. C'est un faux trucage, mais oui, c'est comme ça.
Non, mais attendez, faut être précis, parce que non, le tirage au sort n'est pas truqué.
Non,
c'est-à-dire que tu tires,
Mais ça arrange pour que le pays hôte rencontre le pays le plus faible du groupe.
Non. Le match d'ouverture aurait pu être Russie-Uruguay, veux.
Ah d'accord, parce que je pensais que c'était dans le chapeau 4.
Mais par contre, là où les Russes, comme les Français en 98, c'est ce qu'avait dit Platini il y a quelques temps, rappelez-vous. Là, en revanche, tu peux organiser ton tableau pour que l'équipe principale, par exemple l'équipe numéro 1 mondiale se retrouve dans l'autre partie de tableau.
Oui, sauf que là, la Russie, il y a que des ennemis potentiels partout.
De toute façon, pour eux, ça aurait rien changé, je pense.
Mais l'intérêt, on a eu l'occasion de rencontrer avec mes deux co-auteurs, Ruben Slakter et Quentin Migliarini. On a rencontré l'ambassadeur russe, justement, en France. Et quand on lui a posé la question de ce que la Russie attendait, sa réponse a été claire. D'abord, il a souri, ensuite il a ri. Il a dit, concrètement, on fait des vannes sur la sélection russe depuis maintenant des mois. On attend juste qu'il nous ridiculise pas. Il faut juste qu'il soit au niveau, qu'il soit capable de rendre le peuple russe fier. Juste en ne se faisant pas humilier par l'Arabie Saoudite. Si on imagine un 0-3 par exemple, ça va être compliqué.
Mais même
ça,
c'est
0-0. Ça, c'est pas propre à la Russie.
Non.
Les pays organisateurs, quels qu'ils soient, ont toujours poursuivi ce but. C'était le cas de la Corée du Sud qui ne voulait pas être ridicule. Ça sera le cas du Qatar. Et ils vont tout faire pendant 4 ans, prendre un sélectionneur qui va essayer de leur monter une équipe, naturaliser 3-4
Je crois qu'ils veulent Zidane.
Oui. Ouais, mais il faut faire un effort financier parce que là, ils sont à 200 millions sur 4 ans. Ils peuvent faire un peu mieux, Tu vois, c'est toujours le but du pays qui organise.
Et on focalise aussi beaucoup sur la Russie.
Il y a l'Afrique du Sud qui fait un peu exception parce que l'événement, c'était que la Coupe du Monde soit en Afrique.
Il y en a un de plus.
C'était l'événement.
Le Dog Foot et KGB est rediffusé le 9 juin, si tu veux le voir.
Très bien.
Alors, il y a aussi des histoires qui lient pouvoir politique et économique aujourd'hui avec le foot. Par exemple, Gazprom et le Zénith, C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que c'est, en fait, le Zénith appartient à Gazprom. C'est comme si aujourd'hui un gros club français appartenait, je sais pas, à Total, par exemple.
Il y a une vraie volonté, justement, de voir les grands groupes russes aider les clubs de foot. Alors malheureusement, ça n'a pas duré. Hein. Vladimir Poutine a signé la fin de la récréation, enfin sifflé la fin de la récréation, il y a pas longtemps. Et donc, on devrait avoir un désengagement justement des grands groupes. Pour le bouquin, on a eu l'occasion de rencontrer une des spécialistes de l'énergie et qui est en plus de ça une fan de foot, Aurélie Bro. Et on a pu justement voir tout ce que faisait Gazprom. Alors pas encore, parce qu'elle est à Harvard en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est que elle nous expliquait justement qu'en vérité, ceux qui sont à la tête de Gazprom aujourd'hui sont des vrais fans de foot. Donc il y a une vraie envie en plus de d'orienter ça. Maintenant c'est clair, quand t'es top sponsor d'une compétition, bah c'est quand même beaucoup plus facile de faire valoir tes intérêts. Et c'est pareil pour le Zénith. Le Zénith a toujours été favorisé parce que financièrement, il y avait énormément d'investissements.
Alors c'est marrant parce que tu viens ce soir et tout à l'heure j'ai pris les hebdos de la semaine là, et dans le dernier numéro de l'Obs il y a un article donc sur la Coupe du Monde et, comme Mussolini en 34 ou Videla en 78, Poutine mise sur la Coupe du Monde pour faire sa propagande.
C'est vrai.
Concrètement, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il peut tirer de cette Coupe du Monde? Parce que de toute façon ça fera pas changer d'avis ceux qui ont envie de penser du mal de Poutine et ceux qui en pensent moins de mal que les autres, quoi.
La première chose déjà, c'est que l'un des objectifs de Vladimir Poutine, c'est de relancer l'économie russe et de passer finalement sous les sanctions internationales. Et donc pour ça, c'est de développer le tourisme en Russie. Donc de donner envie d'y aller. Pour ça, il faut faire valoir le patrimoine russe. Et pour le faire valoir, il faut que les gens y aillent. Donc l'occasion de cette Coupe du Monde, c'est de montrer finalement au monde ce qu'est la Russie, ce que sont les Russes, et donc tout le patrimoine qu'ils ont justement pour eux comme à tout. Il faut savoir que le nombre de touristes, par exemple, en Russie, aujourd'hui, ne dépasse pas un nombre comparable à celui d'Autriche. Donc c'est relativement ridicule par rapport à tout ce qu'il y a à voir et tout ce qu'il y a à faire en Russie. Donc l'intérêt, c'est d'abord ça. D'abord un intérêt économique. Ensuite, il y a un autre intérêt, c'est de changer, finalement, ce qu'on dit de la Russie en ce moment et tout ce qui est lié au storytelling russe. Concrètement, quand tu penses à Russie, tu penses à quoi? Tu penses à vodka? Là, tu penses à l'affaire Skripal, c'est-à-dire que c'est l'assassinat d'un
espion. Tu penses que ça caille surtout
en Angleterre, voilà. Mais c'est toutes ces images reçues là. Et puis après, tu penses à des choses un petit peu plus élaborées, c'est-à-dire que tu penses à un régime autoritaire. Et ensuite, tu regardes la Russie avec un petit peu plus de perspective.
Moi, j'étais au match de Jérôme. Comment il faisait? Quelle température il faisait quand t'as joué avec Monaco contre le Lokomotiv là en Ligue des Champions?
-20, -19, je crois.
Voilà. Donc c'est un temps parfait pour faire du foot.
Hein, ouais, c'est
d'accord. Franchement, je pense que t'as dû t'éclater un bonheur. Oh,
ouais. Plus sur les entraînements, c'était encore mieux.
Oh, voilà. Bon, en tout cas, pour revenir à ça, l'autre intérêt, c'est finalement qu'on sorte de la Russie égale puissance oppressive. Et donc, réussir une Coupe du Monde, et la FIFA fait tout pour que ce soit le cas. Quand on voit les images de Gianni Infantino jouant avec Vladimir Poutine au Kremlin, là on est dans de la com, le discours sera formidable, sera complètement léché, et ça se passera probablement bien. L'image sera forcément belle.
Alors vous parlez aussi de corruption dans le bouquin. On se souvient qu'à Sotchi, il y avait eu le tronçon d'autoroute le plus cher du monde. Puisqu'il était évalué à 100 millions d'euros de mémoire et puis il avait coûté plus d'un milliard, donc il y a du fric qui s'est évaporé, on ne sait où. Là, c'est le même cas pour le stade de Saint-Pétersbourg.
Ouais,
qu'on dit être le stade le nouveau.
De corruption, parce qu'on n'a pas de preuves effectives. Maintenant, quand on voit les surcoûts derrière, on se doute bien que chacun a pris sa part et qu'il y a tout un système de commission finalement.
Petit crocasse, par-ci par-là.
Oui, mais après, sur pareil, faut être capable de prouver.
Ouais. Enfin, ça, le pouvoir russe doit être tout à fait. Comment dire, c'est tout ça est sous cloche. Enfin, je peux pas croire que Poutine maîtrise pas l'affaire. Là.
C'est une société contrôlé, mais c'est pas aussi contrôlé qu'on peut le penser. C'est-à-dire que ce qui nous a surpris, nous, quand on a écrit le bouquin, quand on a vu tous les spécialistes, que ce soit Lucas Aubin, Sylvain Dufraisse, etc., c'est l'impression qu'on a en tant qu'occidentaux et en tant que français, c'est-à-dire une Russie complètement maîtrisée par un seul homme qui dirigerait tout, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on est plutôt proche d'un État défaillant, c'est-à-dire un État où l'autorité s'exprime pas partout. Et à notre grande surprise, et pourtant, c'est un pays qu'on avait, sur lequel on avait énormément lu, tu te rends compte d'une chose, c'est quand Vladimir Poutine décide de quelque chose, ça s'applique pas forcément jusqu'au bout et partout. Je prends l'exemple du dopage institutionnalisé, par exemple. S'il y a une politique sportive qui est efficace, concrètement, ton équipe, elle performe. Puisqu'il y a l'argent, il y a les moyens, ils ont les compétences techniques, ils ont le savoir-faire, etc. Sauf que, comme son autorité s'applique pas partout, les gars trouvent des stratégies de contournement. Et donc, du coup, ça donne des gens qui, pour répondre aux objectifs fixés, vont franchir allègrement la ligne jaune. Et on est dans un système, finalement, qui est plus caractéristique d'un État qui a du mal à faire valoir son autorité partout sur le territoire.
Alors, juste pour être complet, là, aujourd'hui, les organisateurs ont communiqué sur la sécurité. Ils ont dit toutes les mesures ont été prises. On vous le dit, il n'y aura aucun problème, disent-ils aujourd'hui.
Ce qui semble être vraisemblable. Tu vois la Coupe des Confédérations, par exemple, il y a eu zéro problème. Mmh. Après, il faut s'attendre à avoir des forces de sécurité, des forces de renseignement partout. Et puis, ils n'ont aucun intérêt à ruiner finalement tous leurs investissements en laissant des hooligans ou des actes terroristes finalement.
Et pour rejoindre ce que te disait l'ambassadeur de Russie en France, Vladimir Poutine aujourd'hui a dit « Je veux que l'on joue dignement et que l'on se batte jusqu'au bout », dit-il. Alors, bon ben voilà, ça rejoint un peu ce que tu disais. Voilà, il souhaite que la Russie, concernant notre sélection, je dois reconnaître un fait, dit Poutine, malheureusement, elle n'a pas eu de grands résultats dernièrement.
C'est joliment dit.
Ouais. Moi je connais mal la sélection russe, la plupart des joueurs qui sont là-dedans, ils jouent en Russie ou ils sont à l'étranger.
Et c'est lié en grande partie à l'organisation du championnat russe. C'est-à-dire que depuis que Gusilink est passé par le championnat russe, ils ont changé le championnat russe. Et donc les joueurs russes sont pas incités finalement à s'expatrier parce qu'ils sont très bien payés. Ouais. Il y a un système qui valorise la jeunesse russe. Mais du coup, ils sont pas challengés par les étrangers. Quand des étrangers viennent, ils sont pas suffisamment nombreux pour les pousser à bouger. Et donc, on a des joueurs qui gagnent très bien leur vie. Quasiment aussi bien que dans certains pays européens où on paye très bien les joueurs. Et sans une pression.
Ils ont des équipes qui sortent nos équipes en Coupe d'Europe.
Exactement.
Non, mais ils ont des bons. On l'a vu cette année.
Exactement. Après, c'est Lyon.
Souvent renforcé par des
bah, les élites a gagné l'Europa League il y a quelques années. Hein.
Mais d'ailleurs, ouais, ils ont eu cette période où on parlait beaucoup du Zénith ou quelle est l'équipe de Moscou qui a gagné l'Europa League CSKA, c'était autour de 2010 par là. Ils ont eu, là, on a eu l'impression qu'il y avait une bonne période de football russe où même des gens en France sont même allés bosser là-bas et puis finalement ça s'est.
Bah, il y avait d'abord énormément d'argent
et ça s'est éteint finalement.
Et puis après, il y avait une vraie volonté de faire valoir les clubs et puis le championnat était d'un niveau différent. Là aujourd'hui, c'est moins intéressant. Suivre le championnat russe, faut vraiment le vouloir. Après, ça reste un championnat qui peut être passionnant.
Mais on sait pourquoi ça a chuté alors qu'il prenait des entraîneurs connus.
Bah, Eto'o, rappelle-toi le contrat à Makhachkala, là. Ouais, c'est le plus gros contrat du monde.
Puis, mais justement, Makhachkala, c'est l'exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, il n'y a plus l'argent.
Et il y a Ludira, d'ailleurs, là-dedans.
L'équipe s'est délitée en quoi? 8 mois.
Et
ça joue, hein. Et
puis après. C'était pas la bonne période pour aller croquer un petit billet là-bas.
Si, j'ai eu une proposition du CSKA Moscou.
Elle est fraîche. Non, mais toi qui aimes pas le froid et les carrés longs et tout ça.
Non, j'ai toujours privilégié le côté sportif. Donc, je préfère rester à Paris à ce moment-là. Mais non, mais c'est vrai, dans mes blagues à part, j'ai eu une offre.
Bah surtout si c'est l'année de. Ça t'en sort à quelle année ça? En 2005? C'est l'année où ils ont gagné l'Europa League. T'as bien fait de pas y aller?
L'offre que j'ai, ça doit être 2006 ou 2005.
Ah, bah c'était juste après alors.
Voilà. Bah ouais, là, il voulait la regagner. C'était obligé d'avoir des grands joueurs, donc il m'avait fait une grosse proposition.
Et toi, t'as préféré faire quart de finale avec Landreau là-bas quand.
Ah, maintenant ouais, c'était
à
Kiev.
C'était à Kiev, rien à voir.
Je me disais, nous, on aurait peut-être plus de chance avec le PSG de la gagner. Bon, après, on pouvait pas savoir que Mika allait se faire dessus, quoi. Ça arrive, hein.
Messieurs, Jean-Baptiste reste avec nous pour le quiz. Ça me permet de vous signaler que demain, vous vivrez un autre moment d'histoire sur RMC, puisque demain, c'est une soirée spéciale France-Brésil 86. On avait fait la même chose pour France-Brésil 98, il y a quelques semaines. Demain, on aura Manu Amoros avec nous. Il était sur le terrain à l'époque, recordman des sélections et tout. Taulier, le meilleur latéral sans doute que la France ait eu.
Le meilleur latéral de l'histoire du football français.
Voilà, on en parlait hier.
Meilleur, je sais pas, mais les meilleurs.
Oui. Largement, oui.
Il sera avec nous demain. On va revivre le match en intégralité.
Pourquoi
le match, la totale, Zico et tout.
Parmi les
la prolongue, les tirs au but, on sait déjà comment ça se termine.
Parmi les
et ensuite, on fera l'after après ce match demain soir.
Le meilleur, même pas Tevra est derrière, ton copain, je t'assure.
Soirée exceptionnelle.
Je ne sais pas, qui alors?
Il y en a plein, les Aradou, tout ça.
Il y en a eu derrière.
Il y en a eu des.
C'est derrière.
Non, parce que lui a décidé.
Moi, je suis d'accord avec derrière.
Isaac le dira lui-même.
Mais
demande-lui.
Allez stop, ouais, le quiz dans quelques instants et le mercato.
Et lui quand on met le face au mur, bah, il continue
à
il contourne le mur. Top, envoyez la pub.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Jean-Luc Lemoine, Jean-Baptiste Guégan, je rappelle son bouquin, Football, Investigation, les deux sous-lits de football en Russie aux éditions Brayal, hop, pour tout savoir du football russe avant la Coupe du Monde dans une semaine. D'ailleurs, sur RMC, bien sûr, vous le savez, 10 heures par jour d'antenne, tous les matchs en direct, en intégralité, la totale, la radio,
tous
la
les matchs, Arabie Saoudite-Égypte en direct?
Tous les matchs.
En intégral?
Tous les matchs.
Arabie Saoudite-Égypte.
Je te dis pas que pendant le match, on parlera peut-être pas d'autre chose, mais il y aura tous les matchs.
D'accord.
Voilà.
C'est avec, parce que j'ai vu que c'était Franck Leboeuf.
Avec une dream team de dingue, dont fait partie Jérôme Rotten, bien sûr.
Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont mis à
alors,
suivre l'Arabie
Saoudite. Les gars, deux, trois petites infos avant le quiz. Je pense que le Mexique a déjà plombé sa Coupe du Monde. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire.
C'est l'histoire d'Orgie.
C'est l'histoire des tapins.
Neuf joueurs mexicains.
C'est rien, ça, ils font la fête avant de partir.
Alors, en fait, ce qui se passe, non, mais c'est quand même une histoire assez étonnante. Donc, c'est un journal mexicain qui raconte que neuf joueurs ont passé un week-end en compagnie d'une trentaine de prostituées. Une orgie, dit le journal.
Et ce qui est champion du monde.
Ce qui est génial, c'est que la Fédé a dit, bah alors, ils ont manqué aucun entraînement. Ben oui. C'est sur leur temps libre, dit la Fédé.
Exactement, c'est quoi le problème? Franchement, je vois pas.
Franchement, leur vie, c'est pas une affaire.
Bon, en plus, il balance les noms, le journal.
9 en France, fait 3 par tête.
Parmi les 9,
je pense que t'as un. S'il y en a peut-être un sur les neuf qui a une compagne ou quelque chose, ça peut peut-être créer un souci parce que si tu te fais pourrir par ta compagne, oui.
On ne sait pas sur les neuf. Normalement, les mecs n'ont pas de compagne.
On n'a pas d'infos sur les neuf.
Bien sûr. Évidemment.
Normalement, c'est pas comme ça que ça marche.
Parmi les neuf, il y a Ochoa, l'ancien gardien d'Ajaccio, en passant.
On sait qu'il est célibataire.
Il vient de se séparer. Il y a 2 mois.
Donc, tout va bien au Mexique.
Du moins, il y a 2 heures.
Quelques mots sur le mercato. Adli, le jeune Adli de PSG a signé Arsenal, c'est fait, donc le PSG déplore le départ de ce jeune joueur. C'est pas du mercato, mais je vous signale qu'Andy Delors a pris 10 000 euros d'amende et 4 mois de suspension de permis, conduite en état d'ivresse, état de récidive, 2 grammes d'alcool dans le sang. En passant. Sinon, vous signalez que au niveau mercato, Toko Ekambi est plus proche que jamais de Villarreal, l'attaquant d'Angers, que Grand Cyr va signer à Monaco, a priori, Info RMC Sport, que Angers continue de recruter après Baoken, Souk.
Grand Cyr à Monaco, ça colle bien.
Ah, pas mal.
C'est beau.
C'était fait pour lui.
Ou ça aurait pu être Grand Prince, normalement, mais là, c'est Grand Cyr.
On doit pas y rester longtemps, Royal, parce qu'il va pas vite prêter, hein, mais déjà, c'est pas mal, enfin, un effort.
Et puis, le bordel au Sporting Portugal continue, l'entraîneur Jorge Jesus, entraîneur emblématique du Sporting.
Parce qu'il n'y a pas de lien avec les Mexicains de tout à l'heure. Ils font pas un vrai bordel au Sporting. Ils organisent pas ça.
Non, pas encore. Mais, et puis, Pape Diouf, la mise en examen de Pape Diouf a été annulée dans l'affaire des transferts de l'OM. Il a toujours clamé son innocence, et finalement, aujourd'hui, la chambre d'instruction qui s'occupe du dossier considérer qu'il n'y avait aucun indice grave le concernant, donc levée de la mise en examen pour Pape Diouf. Est-ce que je vous ai tout dit parmi les infos importantes? Ah oui, Cabella quand même. L'OM fixe le prix pour Cabella, vous savez qu'il était prêté à Saint-Etienne. Mmh. L'OM veut entre 10 et 12 millions pour vendre Cabella.
C'est-à-dire 11.
C'est une bonne déduction.
À 11, c'est bon.
Il y a Ricardo Rodriguez aussi, l'arrière gauche de Milan, là, peut-être à Monaco.
Ricardo Rodriguez. Bah tu vas-y, donne.
Non, mais c'est possible. Ils sont
bien
dessus.
Très bien. Ça nous fait une info. On est content.
Jérôme, ce soir, c'est le top de l'info.
C'est un volcan en éruption.
Dans la foulée, il gagne le quiz et ça lui fait.
Et confirmation
semaine.
De l'ECA à Lens, Douchez n'est pas conservé, par ailleurs, au niveau mercato. Et puis, dernière histoire, vous avez suivi la crise diplomatique, là, suite à l'annulation du match Israël-Argentine. Les Argentins, suite à des menaces palestiniennes, ont décidé de pas y aller. Eux disent c'est un signe de paix qu'on n'y aille pas. Vraisemblablement, les joueurs ont peur. On se souvient de Fabien Barthez il y a quelques années qui voulait pas aller jouer un match Israël-France, rappelez-vous. Donc finalement cette histoire se transforme en crise diplomatique. Ce sont les Argentins qui ont décidé de pas se rendre à Jérusalem. Vous êtes prêts pour le quiz?
Ah bah oui.
Attention, j'accueille Dimitri qui est là. Dimitri, bonsoir.
Oui, bonsoir, comment ça va l'after?
Ça va et toi?
Salut Dimitri.
Dimitri, t'as le choix entre l'équipe Roten Lemoine ou l'équipe Guégan Riolo, tu prends qui?
Je vais prendre l'équipe Riolo Guégan.
Très bien.
Et je peux vous dire juste un petit mot?
Vas-y, rapide.
Alors en fait, j'ai 20 ans et je vous écoute depuis que j'ai 12-13 ans.
Mm-hmm. Bravo.
Et en fait...
Sans m'arrêter.
Et en fait, j'adore tellement votre émission que vous m'avez d'ailleurs retranscrit votre passion. Et j'ai envie de devenir journaliste sportif. Donc voilà, c'est juste la petite séquence émotion.
Bravo Benjamin. Très bien. Dimitri, pardon.
Dimitri, je te souhaite d'y arriver.
C'était bien, quand t'as dit Benjamin, ça a tout pété.
Benjamin, bonsoir.
Benjamin est celui qui arrive maintenant.
Bonsoir à tous et bonne chance Gilbert pour ta finale dimanche matin.
Merci Benjamin. Et oui, finale.
C'est quoi la finale?
Samedi,
finale
de samedi, je veux venir, samedi matin. 9h à Sèvres à côté
c'est
de
chez moi.
La radio.
C'est quoi comme finale? Je suis pas au courant.
Finale de la Coupe Loisirs de Paris et l'équipe d'RMC appelée Media Football Club est en finale.
On est au top. Contre qui? C'est que vous
contre des gars qui vont perdre.
Et vous jouez enlevé de rideau de nous. Parce que moi je joue après.
Et ben, la finale aussi. Pouvoir
et Momo, il sera là.
Bah, vous êtes en bah, évidemment.
Bah, si c'est un, il s'est installé.
Attention le quiz. Voilà,
il va arriver, il sera pas en forme.
Je vous fais gagner Dimitri ou Benjamin. Il a une BD qui est très sympa. L'histoire de l'équipe de foot du Tibet. Rêve sur le toit du monde aux éditions des Ronds dans l'eau. Voilà. C'est une BD très sympa.
Je préviens les auditeurs, Gilbert en a 20, donc là pendant 20 jours, ça sera des BD.
Non, j'en ai que une qu'on a fait gagner hier, une ce soir. Vu qu'on a des spécialistes du PSG autour de la table, nous allons faire un quiz sur les Kidam du Paris Saint-Germain.
Les Kidam.
Les Kidam du Paris Saint-Germain.
Ah oui, il y en a un paquet quand
tous ces joueurs dont on se souvient plus, qui ont un peu joué, mais pas trop, ou qui étaient nuls. Il faut donc les trouver. Attention. On va démarrer avec un premier joueur. Je vous donne le parcours en club de ce joueur. Vous devez me trouver son nom. Auxerre, Paris.
Goma, Alain Goma.
Rennes.
Mahé, la Chueur.
Mahé, bien joué Jean-Luc. Ouais. Stéphane Mahé, il est là.
C'est pas l'un, c'est l'autre.
Il est là.
T'as fait ton boulot.
Celtic, etc. Stéphane Mahé.
Enfin, quand même, il a fait une demi-finale de Coupe d'Europe. Hein, ah, Kidam, ouais. Excuse-moi. Hein.
Attention.
Ouais, bah, à Paris, oui.
Petite charade rapide pour ce Kidam du PSG. Si je vous dis 3-14,
hein,
3-14,
ouais,
et contraire du froid.
Pichot,
c'est, bon. C'est bah, Daniel qui a été le plus rapide.
Waouh.
Ah ouais.
Stéphane Pichot.
Ouais.
Mm-hmm. C'est de Lorient, lui.
Joli Kidam.
Non, Lille.
Attention, je suis formé au PSG. J'ai aujourd'hui 49 ans. J'ai joué 22 matchs avec Paris entre 86 et 92. Le mec, il a joué 22 matchs en 6 ans, quand même. J'étais défenseur. Mon parcours d'entraîneur, désormais, est le suivant. Jeune du PSG, Créteil, Reims, Paris FC,
Vasseur,
Jérôme, oui. Bien joué. 2-1 pour l'équipe Rotten Benjamin Lemoyne.
Pile en dessous, là, t'es passé.
Jean-Luc Vasseur. Il a 22 matchs en 6 ans. Attention, j'ai joué avec Jérôme Rotten. Je suis gaucher, une sorte de sous-Rotten.
Ateba, Jean-Luc Ateba.
Rodriguez.
Je suis arrivé de Saint-Etienne dans le cadre d'un échange avec Christophe Flandrin Elbuic. Ouais. Jérôme.
Oh, putain.
C'est bon.
Ça, c'est cadeau pour lui.
3-1.
Oh, cadeau, franchement, non.
Bon. Attention, je suis né à Nice. J'ai aujourd'hui 38 ans. J'étais latéral droit. J'ai disputé 19 matchs avec Paris lors de la saison 2003-2004. J'étais alors prêté par Monaco.
Cuvier-Rosé.
Cuvier. Il l'a dit.
Mais je l'ai dit, moi,
Cuvier. Il l'a dit en premier.
J'ai dit en premier, s'il te plaît.
Cuvier.
Sois honnête.
Cuvier-Rosé.
Cuvier-Rosé. C'est dommage.
Cuvier-Rosé.
4 ans.
Mais si je l'appelais tout le temps comme ça.
Attention, voici mon parcours professionnel. Rennes, Paris, Lorient,
Bourillon,
Landreau,
Bourillon,
Bourillon,
Benjamin
Bourillon,
6-1,
5-1, 6. Mais attention,
pour encore
vous
refaire.
Attention, je me suis, alors j'étais attaquant. En un an et demi au PSG, je n'ai marqué que 4 buts en Ligue 1. En un an et demi, 4 buts en Ligue 1. Je jouais en soutien de Pedro Paoletta. Et je suis actuellement entraîneur adjoint d'un club de Ligue 2.
Carlos Bueno.
Alors là.
Entraîneur adjoint de Sochaux.
Luboya.
Je suis.
Linfro.
Pierre-Alain Fro. Jérôme.
Il a mis que 4 buts.
Eh oui. 6 à 1.
Dans mon souvenir, j'en ai mis plus. Par contre.
C'est n'importe quoi.
Ah oui, là, juste,
moi, attention, charade pour trouver un ancien défenseur du PSG.
Ça dépassait
top. Mon premier est un petit bloc de caoutchouc qui permet d'effacer. Mon second. Et la première lettre de la
Goma.
Goma, Daniel, c'est bon.
Bien, 6-2, c'est bon.
6-2.
Ça va mieux.
Attention, indice, j'ai 37 ans, je suis un ancien défenseur central et j'ai 95 sélections avec mon pays.
Traoré.
Sud-américain.
Yepes.
Diego. Lugano. Et puis, la dernière, c'est la plus belle. Attention, j'ai le même nom que le 35e président des États-Unis.
Ah, c'est Kennedy.
Kennedy, oh, Jean-Luc, c'est bien joué. Douglas Kennedy.
Oh là là, c'est le même sort qu'hier.
Daniel, il s'appelait.
Voilà. Il s'appelait Daniel Kennedy. Ouais. Victoire éclatante de Benjamin et de l'équipe Rotten.
7-2 hier, 7-2. C'est le même 7 tarifs maison.
Ah lui quand il gagne on l'entend.
Merci Jean-Baptiste d'être venu.
Il en a fait des caisses aussi.
Jean-Luc, merci beaucoup.
C'est un plaisir.
À très bientôt. Et l'after revient lui demain soir.
T'es pas modeste dans la victoire toi.
Demain soir on sera là aux alentours de 23h15 juste après le tir au but gagnant de Luis Suarez.
Et là tu fais un sketch là.
À demain soir.
Merci beaucoup.
RMC, le super football show, l'after foot.